Oui, chers amis, l'Église est devenue universelle et s'est implantée sur les 5 continents du monde. Et ça s'est fait au 19e siècle, qui était le grand siècle de la mission, 20e siècle encore plus, et a pris des visages si divers. Hier, nous avons regardé des images de chrétiens un peu partout dans le monde, au Brésil, en Sibérie, en Australie, en Inde, des visages si divers, des chrétiens de courants si divers, orthodoxes, catholiques, protestantes, évangéliques, pentecôtistes, baptistes, anglicanes, luthériens et tout le reste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au XXe siècle, ces églises sont devenues de plus en plus indépendantes, développent leur propre vie d'église, différent un peu de ce qu'ils avaient reçu de l'Occident, on va dire, ce qu'ils avaient souvent très marqué. Mais aujourd'hui, on voit des visages de plus en plus africains en Afrique, avec le chant, la danse, une architecture africaine. On voit des visages en Inde d'une église qui prend des symboles de son culture avec des fruits, des fleurs, l'eau et le feu. J'ai pu le vivre en Inde moi-même, dans le sud de l'Inde. Tous ces chrétiens, dans leur immense et belle diversité, fait donc l'Église universelle. C'est d'ailleurs la plus grande communauté croyante au monde, de 2 milliards 4 de chrétiens sur Terre. C'est pas rien, dans cette grande diversité. Et nous confessons si souvent le dimanche, dans notre confession de foi, le symbole des apôtres, que nous croyons dans l'Église universelle, une universelle, sainte et apostolique. Voilà cette Église universelle à laquelle donc nous appartenons aussi, que nous confessons ensemble. Nous appartenons à une Église locale, qui est la nôtre, protestante, réformée, Pentemont-Luxembourg. Et souvent, notre appartenance d'Église est d'abord cette communauté concrète d'hommes et de femmes que nous côtoyons avec leur pasteur, le catéchète et tous les autres. Mais nous appartenons aussi tous à cette grande Église universelle, la famille de tous les chrétiens, qui ont en commun, qui sont baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel que soit le chrétien, tous reçu ce baptême, ou parfois un baptême d'adulte dans l'église baptiste ou d'enfant, au chelon de cultures, de pays différents, mais le même baptême qui fait que nous appartenons aux mêmes églises de Jésus-Christ. Tous ces chrétiens ont la même Bible, tous ces chrétiens disent le même Notre Père dans leurs langues différentes. D'ailleurs, encore aujourd'hui, l'église qui est probablement implantée dans tous les pays du monde, mais il y a encore des langues dans lesquelles la Bible est traduite. Je crois que chaque année, c'est au moins une dizaine de langues dans lesquelles on traduit la Bible pour le rendre disponible, cette parole de Dieu, à un peuple qui ne l'avait pas encore reçue dans sa propre langue. Nous avons entendu ce texte d'Abraham. C'est assez étonnant de trouver, presque au début de la Bible, ce qu'on a dans le livre de Genèse. On sort un peu du début de la Bible avec le tour de Babel, cette dispersion des peuples d'ailleurs. C'est jusqu'avant notre récit. Tous ces peuples qui ont été dispersés dans ce tour de Babel, avec leurs langues différentes. C'est après que Dieu intervient dans la vie d'un homme, Abraham, pour rassembler à nouveau cette humanité. Parce que c'est bien ce qui nous est dit dans ce texte, cet appel d'Abraham, cet homme en Ur de Chaldée, hein, le sud de Mésopotamie, le premier croyant, le père des croyants. Qu'est-ce que Dieu lui dit? L'appel à quitter son monde connu pour aller vers un avenir que Dieu veut créer, pas seulement avec lui, mais avec un peuple qui va naître de lui, sa descendance, le peuple d'Israël. Mais, dit le texte très nettement, à travers ce peuple, Dieu veut bénir toutes les nations de la terre. Le mot bénédiction revient 5 fois dans ce texte. C'est très beau. Dieu qui veut bénir cet homme d'abord, qui lui fait confiance, Abraham, qui se met en route, faire cet avenir à créer avec Dieu. Mais pour bénir tout un peuple, l'histoire de ce peuple d'Israël, mais la finalité de cette histoire de Dieu avec son peuple d'Israël, c'est finalement pour que Dieu veut être le Dieu vivant, le Dieu unique de tous les hommes. Et ce même Dieu dit, je veux bénir toutes les nations. On va s'ouvrir cette perspective à l'universalité déjà au tout début du peuple. Ces quelques versets de cet appel d'Abraham, c'est toute l'histoire sainte, le plan de Dieu pour l'humanité qui s'offre à nous, qui se donne déjà aux hommes comme une direction, une marche à prendre dans notre vie et encore aujourd'hui, parce que ce n'est pas terminé. Et l'autre texte, c'est « Vie de Christ lui-même », soit l'histoire, la mission est liée à l'histoire de l'Occident et pas toujours pour le meilleur. Il y a des pages sombres dans cette histoire de la mission. Page de violence terrible par des chrétiens en Amérique latine, d'autres continents. Mais l'histoire de la mission de l'Église qui allait vers tous les continents du monde, c'est toujours été d'abord une écoute de cette parole du Christ comme un testament au moment d'aller vers son Père, le Christ ressuscité, invite ses disciples à faire dans toutes les nations des disciples. On peut dire qu'aujourd'hui, en partie, cette parole a été accomplie parce que l'Église est implantée dans quasiment tous les pays du monde, parfois de manière cachée, peut-être dans la Corée du Nord, où on ne peut pas vivre sa foi chrétienne, ou d'autres pays, mais l'Église est implantée. Aujourd'hui, aux chrétiens, partout où ils sont, d'être de communautés missionnaires pour faire autour d'eux des disciples, c'est de les inviter à cette école d'amour que le Christ propose à tous les hommes. Et c'est ta parole lui-même de nous envoyer vers les autres, aujourd'hui encore, là où nous sommes, pour faire des disciples à l'école de son amour. Un petit moment de piano, et après Christian prend la suite.
Abraham est la promesse de bénédiction pour toutes les nations du monde. Et puis l'envoi des disciples par Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, envoie jusqu'aux extrémités de la terre, comme on l'indiquait dans le titre de cette méditation, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, je voudrais dire que je suis perturbé, en fait, à ce moment du culte, par une grande question. C'est quoi les extrémités de la terre, en fait ? Quand j'ai annoncé ce culte sur Facebook, là, peut-être certains d'entre vous voient qu'on met des choses sur Facebook, il y a un collègue assez taquin, on va dire, qui n'est pas ici, hein, mais qui m'a envoyé un petit commentaire en disant « Les extrémités de la Terre, c'est un peu comme les quatre coins de l'Hexagone, non ?» Alors ça m'a fait rire au début, et puis après ça m'a fait un peu réfléchir, et je me suis dit « Mais c'est vrai, les extrémités de la Terre, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» Et alors je vous propose de lire les trois premiers versets de la première lettre de Paul aux Corinthiens, et puis après de traverser cette question, et j'espère que dans quelques minutes nous serons moins angoissés par cette question des extrémités de la terre. C'est Paul qui écrit aux chrétiens donc de Corinthe, et comme on l'a vu hier avec les catéchumènes, il commence sa lettre par une salutation, là où nous disons, nous, chers amis. Lui, il dit, à la mode antique, un peu différemment, 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3. « De la part de Paul, qui par la volonté de Dieu a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à tous ceux qui sont appelés à vivre pour Dieu et qui lui appartiennent dans l'union avec Jésus-Christ, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. » Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Voilà cette lettre après qui se développe en de nombreux chapitres que Paul écrit, comme il nous le dit ici, aux chrétiens de Corinthe et à tous ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ partout dans le monde. Il écrit donc à une église particulière et en même temps à toutes les églises du monde. Et alors moi, il y a trois dimensions qui me touchent dans ce récit. Je vais vous le dire assez rapidement. La première, un tout petit peu plus longuement, mais les deux suivantes plus rapidement. La première dimension, c'est que ce n'est pas du tout une théorie que Paul dit quand il écrit ce texte. Il écrit à des gens qu'il connaît, à des gens qu'il a rencontrés, à des gens avec qui il est en lien. Il est en lien de quatre manières différentes. Et ces quatre manières nous enseignent sur comment nous, au sein de l'Église universelle, nous pouvons être en lien avec d'autres que nous-mêmes. Le premier point qui est toujours frappant chez Paul, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Il a fait des très longs voyages parce que dans l'Antiquité, il fallait voyager soit à pied ou à cheval ou en bateau. Il a connu des tas d'épreuves, de tempêtes, d'endroits où on l'a rejeté, on lui a lancé des pierres, il a été en prison. Enfin, il a eu des moments très très difficiles dans ses voyages à travers tout le bassin méditerranéen. Mais au cours de ce voyage, en même temps, il a rencontré des personnes, il leur a parlé de l'Évangile, ça a créé des communautés, des églises. Il est en lien, Paul, avec toutes ces églises, il les connaît personnellement. Il écrit là à des personnes qu'il connaît. Alors ça, je trouve que c'est un premier point très intéressant de nous dire, voilà, quand on parle de l'Église universelle, ce n'est pas une théorie, c'est des vrais gens. C'est des gens qu'on ne connaît pas tous, mais dont, pour certains, on peut les connaître. En tout cas, ça me paraît important, quand nous voyageons, quand vous voyagez, quand vous voyagerez, les catéchumènes, d'avoir le temps, de prendre le temps de pouvoir aller dans le pays où l'on est à un culte, pour voir d'autres chrétiens, pour partager un moment de culture avec eux, dans leur culture, et puis après on revient ici et on garde en mémoire ces chrétiens d'ailleurs. Et du coup l'Église universelle n'est plus une théorie, mais voilà, tel culte que j'ai vécu à tel endroit, telle personne avec qui j'ai parlé, telle personne où on ne parlait pas la même langue, mais on a chanté ensemble, voilà. C'est ça l'Église universelle. Deuxième élément que Paul fait pour maintenir ce lien avec ces personnes qu'il connaît, c'est qu'il écrit. Il écrit des lettres aux Corinthiens, par exemple, mais il écrit à plein de gens. On en a gardé 13 dans notre Bible. Il a sans doute écrit plus, des lettres qui se sont perdues. En tout cas, il maintient le contact, quand il n'est plus présent, par l'intermédiaire de courriers dans lesquels il salue les gens, il donne des conseils, il répond à des questions, il partage ce qu'il vit de la foi. Et je me dis que là, c'est aussi une dimension très importante de l'Église universelle. C'est de s'écrire les uns aux autres. Alors on peut écrire des lettres, même si on écrit de moins en moins de lettres, mais on peut aussi échanger des SMS, des photos, WhatsApp, tout ça. Enfin, on a plein d'éléments qui nous permettent d'être en communication, plus encore qu'au temps de Paul d'ailleurs, avec d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres chrétiens à travers le monde. Utilisons ces outils de communication pour échanger des nouvelles, du lien, des relations avec d'autres personnes autour de nous dans le monde. Troisième dimension, que fait Paul ? Il connaît les gens, il leur écrit, et puis il exerce en même temps de la solidarité. Paul, notamment, va être confronté à un moment dans ses voyages au fait qu'à Jérusalem, il y a une grande famine, et que les chrétiens de Jérusalem sont en grande difficulté. Alors, au gré de ses voyages, Paul va demander aux autres églises, aux autres chrétiens qu'il rencontre, de donner de l'argent pour envoyer à Jérusalem, pour que ceux qui sont dans la famine puissent avoir de quoi manger. Il met en place une solidarité effective. Il y a aussi cette dimension dans l'Église universelle, c'est d'être des soutiens les uns pour les autres, ceux qui ont pour ceux qui manquent, et ça peut tourner dans l'histoire. Au catéchisme, par exemple, nous avons une petite boîte en forme de mouton, enfin en forme symbolique, très stylisée de mouton, parce que nous donnons un peu d'argent chaque séance de caté pour des chrétiens qui vivent en Arménie, pays beaucoup plus pauvre que nous, et qui avec cet argent, achète des moutons pour créer un petit bout de troupeau. Et vous savez qu'un petit morceau de troupeau de moutons se démultiplie. Et pas pour qu'on les mange tout de suite, hein, mais pour que ça puisse faire d'autres bouts de troupeau ailleurs. Et ainsi, et c'est un espèce de microcrédit en fait, hein, mais qui est porté par des moutons. L'année dernière, le groupe de caté a acheté 6,8 moutons. On a sans doute arrondi à 7. Donc cette année, on verra en fin d'année combien. Voilà. C'est un geste tout à fait symbolique de partage et de solidarité. Et puis, dernier point qui est important dans la manière dont Paul est en relation, c'est qu'il est aussi en relation spirituelle. Et c'est peut-être le plus important. C'est-à-dire que dans la prière, il se sent en communion avec ses autres chrétiens à travers le monde. Il les connaît, certains, pas tous. Il écrit, pas à tout le monde. Il organise de la solidarité, mais surtout, en Jésus-Christ, il se sait frère de ses frères et sœurs avec lesquels il partage le même Seigneur. Ça nous invite, dans la prière aussi, à prier pas que pour nous, mais à prier pour d'autres églises, d'autres frères et sœurs à travers le monde. Voilà, ça c'est le premier point qui me touche. Je l'ai un peu développé, je vais être beaucoup plus rapide sur les deux autres. L'Église universelle, ce n'est pas une théorie, c'est des vraies personnes et des vraies relations, et donc c'est à nous de les entretenir, ces relations, pour qu'elles soient vivantes. Deuxième point qui me touche, c'est de me dire, mais pourquoi Paul fait ça en fait? Il était bien tranquille, sans doute, avant de devenir chrétien. Et puis voilà, il voyage, il écrit, il est en prison, il... En fait, tout ça parce qu'il a été touché par le Christ. Vous savez qu'il était persécuteur des chrétiens, et puis tout d'un coup, il découvre que le Christ est aussi pour lui, et alors, il devient chrétien, et là, il devient quelqu'un qui consacre son énergie à partager l'évangile autour de lui. C'est pas parce qu'il serait quelqu'un de plus grand que nous, ou de supérieur à nous, ou un héros, ou un saint. C'est parce que, comme nous, il est quelqu'un qui peut être touché par l'évangile. Et quand on est touché par l'évangile, alors on a envie de le partager. Et c'est ça qui crée l'Église universelle. Il dit dans cette lettre, moi qui étais appelé apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui était appelé par Jésus, et apôtre, ça veut dire qui était envoyé. Quand le Christ nous parle, ça nous envoie nécessairement vers les autres. Ça nous fait porteur de cette promesse faite à Abraham et de la parole que Jésus dit à ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et alors voilà, je reviens pour mon troisième point sur cette expression du coup. Les extrémités de la terre, de quoi il s'agit? Alors bien sûr, dans un premier temps, on peut penser que c'est une dimension géographique. Que partant de Jérusalem, on se dit que les extrémités de la terre, c'est les endroits les plus loin. Mais nous savons maintenant que la terre est ronde et qu'il n'y a pas vraiment une extrémité, hein. C'est pour ça que le collègue m'a taquiné, sans doute. Il doit connaître comment est fait l'univers, sans doute. Et alors je me suis dit, voilà, maintenant, et puis Andréas l'a dit, l'évangile, il est quasiment annoncé partout. Alors est-ce que cette parole n'a plus de sens pour nous, si on doit parler des extrémités de la terre? Comment pourrait-on entendre cette phrase? Qui en fait, quand elle est prononcée, nous dit d'aller porter l'évangile partout où l'évangile n'a pas encore été bien entendu. C'est ça les extrémités de la terre. Et je me suis dit finalement, les extrémités de la terre, si c'est l'endroit où l'évangile n'est pas encore pleinement vécu, eh ben c'est peut-être d'abord moi-même. C'est peut-être au fond de moi-même, dans mon cœur, là où il y a encore besoin que l'évangile vienne me toucher. Comme il a touché Paul sur la route de Damas, comme il a touché les chrétiens qui vivent à Corinthe, comme il touche plein de gens à travers la terre, peut-être qu'il faut encore qu'ils viennent jusqu'à moi. Et c'est pour ça que je reçois ce texte comme une bonne nouvelle quand Paul dit aux chrétiens de Corinthe et à tous ceux qui sont sur la terre que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. La grâce de sa présence, la paix qu'il met en nous. Alors voilà, je crois que c'est ça, les extrémités de la terre. C'est à la fois les chrétiens partout, mais c'est moi aussi. Pour que l'évangile vienne au plus profond de moi-même, qu'il vienne au milieu de nous, qu'il soit là et qu'il nous fasse vivre, nous qui sommes l'Église de Dieu qui est ce soir rue Madame, et pour tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen.